Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Selon l'ancien ambassadeur de Tunisie en Iran, Washington encourage le régime sioniste à persister dans sa politique de discrimination. Critiquant le soutien des États-Unis à l'égard des crimes du régime sioniste, Mohammad Ibrahim d'Assiri, ancien ambassadeur de Tunisie en Iran, a déclaré « L'attitude injuste et injustifiée des États-Unis explique le retour perpétuel et répétitif de la violence, car elle signifie que Washington encourage le régime d'occupation à persister dans sa politique de colonisation, d'expansion et de discrimination. » Lors d'une interview exclusive accordée à l'IRNA, Mohammad Ibrahim Seri, ancien ambassadeur de Tunisie en Iran, s'est exprimé à propos des événements récents en Palestine. Ce haut diplomate tunisien a également commenté lors de cette interview les négociations en cours entre l'Iran et les pays signataires du plan global d'action conjoint. Diplomate, expert en politique étrangère, analyste des questions en rapport au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, Mohammad Ibrahim Seri était déjà en mission en tant que l'ambassadeur de Tunisie dans les pays tels que l'Iran, le Koweït, la Syrie, la Mauritanie et l'Indonésie. Ça fait longtemps que les territoires palestiniens sont occupés par le régime sioniste au cours de ces années. Plusieurs résolutions ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant les actions du régime sioniste contre le peuple palestinien. Cependant, nous continuons toujours à voir la poursuite de l'occupation et de la violence des sionistes. Pourquoi les institutions internationales telles que les Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité, ne peuvent-elles pas empêcher la reprise de cette violence? En guise de réponse à cette question, l'ancien ambassadeur de Tunisie en poste à Téhéran a souligné: quand on sait que depuis 1967, les États-Unis ont opposé une cinquantaine de fois leur veto à des projets de résolution relatifs à la question palestinienne, on comprend aisément pourquoi ni le Conseil de sécurité ni l'Organisation des Nations Unies n'ont pas pu mettre en application leurs nombreuses résolutions qui pourtant reconnaissent les droits légitimes du peuple palestinien et qui doivent du moins théoriquement constituer le fondement du règlement de paix du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, en ce moment où l'agression israélienne fait rage à Gaza et dans les territoires occupés, les États-Unis persistent dans leur comportement abusif en bloquant à trois reprises, en l'espace de quelques jours, l'adoption d'une simple déclaration du Conseil de sécurité qui appelle à la désescalade et dont le texte proposé par la Tunisie, la Norvège et la Chine a été, faut-il le souligner, approuvé unanimement par 14 des 15 membres permanents ou non permanents du Conseil de sécurité. En même temps, le président américain Joe Biden ne cesse d'apporter son soutien à l'agression israélienne en déclarant qu'Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire. Avec cette attitude, il ne fait qu'avaliser les décisions unilatérales et contradictoires avec les engagements des États-Unis et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité que son non regretté prédécesseur Donald Trump a prises et qui ont été couronnées par son fameux marché du siècle que l'ancien Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères français Dominique de Villepin qualifie de marché abject car il vise non pas à mettre fin au conflit israélo-palestinien mais à rayer complètement et définitivement les droits historiques et inaliénable du peuple palestinien. C'est à mon sens cette attitude américaine injuste et injustifiée qui explique le retour perpétuel et répétitif de la violence car elle signifie que Washington encourage le régime d'occupation à persister dans sa politique de colonisation, d'expansion et de discrimination et qu'elle ignore les souffrances du peuple palestinien condamné depuis plus de 50 années à une vie d'enfer sans aucune perspective. offensive. Et aussi longtemps qu'il n'ait pas mis fin à la politique de puissance et au statut d'exception dont se prévaut le régime sioniste, et tant que la légalité internationale demeure délibérément rejetée, il ne sera pas possible de jeter les bases d'une paix durable en Palestine et dans la région, a souligné l'ancien ambassadeur de Tunisie en Iran. Le président de transition malien Ba Endaou et son premier ministre Mouktar Ouane, qui ont démissionné mercredi, ont retrouvé la liberté tôt jeudi, a-t-on appris de sources d'informations. Monsieur Ouane est rentré à la maison la nuit dernière, selon les premiers membres du cabinet qui sont passés le voir ce jeudi matin. Il se porte bien et il a le moral, a expliqué à l'agence chinoise en charge de mission de la primature du Mali, qui a requis l'anonymat. La démission des deux personnalités avait été confirmée mercredi en fin de journée par Baba Cissé, conseiller spécial du vice-président de transition malien Assimi Goïta, lors d'un point de presse. Pour de nombreux observateurs, cette libération exigée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la communauté internationale est un geste de bonne volonté du colonel Assimi Goïta. Lundi, suite à la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement de transition formé par M. Ouane, les militaires avaient arrêté et emmené M. De Ndao et Ouane dans le camp militaire à Kati, près de Bamako. Les dirigeants somaliens signent un accord pour mettre un terme à l'impasse électorale. Le gouvernement fédéral somalien et les dirigeants des États régionaux ont finalement signé un accord jeudi pour mettre fin à l'impasse qui a retardé la tenue des élections présidentielles et législatives dans le pays. Le Premier ministre Hussein Roble, les dirigeants de cinq États fédérés et le gouverneur de l'administration régionale de Banadir se sont engagés à organiser des élections libres et équitables d'ici 60 jours. S'exprimant après la signature de l'accord révisé, M. Roble a affirmé que ce jeudi marquait un moment historique et ouvrait un nouveau chapitre de l'histoire du développement de l'État et de la gouvernance de la Somalie. Selon lui, une entente a été trouvée sur toutes les questions litigieuses, y compris la région de Gedo et le Somaliland, ainsi que sur le contrôle de la structure des comités électoraux au niveau fédéral et régional et de la sécurité des élections régionales. Il a promis que son gouvernement fera tout son possible pour assurer des élections libres et équitables dans le pays, appelant toutes les parties prenantes aux élections et la communauté somalienne à jouer leur rôle dans le succès de ces élections. RDC, le gouvernement ordonne l'évacuation progressive de Goma devant le risque d'une nouvelle éruption. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se prépare à activer à titre préventif un plan d'évacuation progressive face au risque de séisme à Goma, ville située au pied du volcan Ibaragongo dans la province du Nord Kivu, a annoncé le ministère congolais de la communication et des médias. Goma est encore sous la menace persistante d'une éruption et de secousses sismiques à répétition. Cela oblige le gouvernement à activer à titre préventif un plan d'évacuation progressive des habitants. Au plus tôt, a-t-il tweeté. Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu, a annoncé le gouverneur militaire de la province, le général Constant Indima, tard dans la nuit de mercredi à la radio-télévision nationale. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.